Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale pour recevoir un grand invité. Nous recevons aujourd'hui un Catalan que les Français connaissent bien puisqu'il s'agit de leur ancien Premier ministre Manuel Valls. Bonjour. Bonjour Monsieur Valls. Merci d'être en duplex avec nous depuis Barcelone.
Barcelone, vous êtes donc candidat à la mairie avec le soutien du parti de centre-droit Ciudadanos. Le scrutin aura lieu le 26 mai, le même jour que les élections parlementaires européennes. Vous vous présentez dans votre ville natale, mais vous avez mené l'essentiel de votre carrière politique en France, au sein du Parti Socialiste, d'abord maire d'Évry, député, ministre de l'Intérieur et Premier ministre de François Hollande entre 2014 et 2016. Après la déferlante des marcheurs d'Emmanuel Macron, vous êtes élu député et, avez, à la surprise générale, vous abandonnez votre mandat pour commencer une nouvelle vie politique en Espagne.
Nous commençons bien sûr justement en Catalogne avec ce procès de 12 indépendantistes catalans depuis la semaine dernière qui suscite beaucoup de passion. On l'a vu en particulier ce jeudi, jour de grève de soutien de ces prisonniers indépendantistes qui a entravé les transports dans votre région. Comment vous avez vécu cette journée ?
D'abord, je n'étais pas là, j'étais à Madrid pour tout vous dire. Mais la réalité, c'est que la grève a été un échec de la vie de tous, quand on regarde la presse et quels que soient d'ailleurs les titres. Mais pourquoi ça a été un échec? Parce que le procès qui vient de commencer donne l'image d'une justice sereine qui juge, non pas pour des opinions, un certain nombre de responsables politiques indépendantistes, mais pour des actes de violation de la Constitution, de l'État de droit, du statut catalan ou des règlements du Parlement catalan. Et tous ceux qui regardent en direct ce procès peuvent voir que la justice espagnole est indépendante, respecte les droits des justiciables, pose les questions qu'il faut et que tout le monde peut évidemment se défendre. Et je crois que ça joue dans ce moment-là où on a besoin de sérénité et de calme, même si hier il y a eu des exactions et de la violence, ce qui est évidemment dans une démocratie tout à fait inacceptable.
Alors, les accusés sont poursuivis pour avoir organisé un référendum illégal. Ils risquent des peines allant de 9 à 25 ans de prison. Ces peines vous paraissent-elles légitimes ?
Moi, je ne peux pas commenter l'action ou des décisions de justice qui ne sont pas intervenues. Les responsables indépendantistes qui ont enfreint la Constitution savaient à quoi ils s'attendaient. C'est tellement vrai que certains ont franchi la frontière et sont partis en Belgique, à commencer par le président sortant de la Généralité, M. Puigdemont. Ils savaient ce qu'ils risquaient. Ils sont présumés innocents, ils sont devant les juges. Il se passe quelque chose qui n'existe pas en France. Ce procès est retransmis en direct par un certain nombre de médias et par les télévisions notamment. Donc chacun peut se faire une opinion, mais la justice espagnole est particulièrement indépendante. Chacun le sait. Il y a de nombreux responsables politiques qui, pour d'autres raisons, sont en prison, ont été condamnés. Je pense par exemple à l'ancien directeur général du FMI, M. Rato, qui est en prison. Donc c'est une justice parfois sévère, mais qui est indépendante et il faut respecter la manière dont elle conduit ce procès et demain, elle prononcera les verdicts. Quand je dis demain, c'est sans doute dans quelques mois.
Alors, Manuel Valls, la moitié de la Catalogne est pro-indépendance, l'autre moitié anti-indépendance, mais la région est tenue par un gouvernement indépendantiste. Vous, au contraire, comme candidat à la mairie de Barcelone, vous vous érigez en rempart contre cet indépendantisme ?
Oui, mais moi, je suis, avant même de décider de revenir sur ma terre natale, de changer de vie pour des raisons personnelles et intimes, au-delà même de ce défi extraordinaire de vouloir être maire de Barcelone, parce que c'est une ville incroyable, c'est une marque que tout le monde connaît, mais c'est une ville qui connaît aussi des défis et des problèmes tout à fait importants. Mais avant même cela, j'étais déjà venu comme responsable européen défendre l'idée que le destin de la Catalogne était dans l'Espagne et dans l'Europe. La Catalogne, a commencé par Barcelone, c'est une triple identité. C'est une identité catalane, profondément, c'est sa culture, sa langue. C'est une identité espagnole, son destin est depuis des siècles espagnol. Et c'est aussi, bien sûr, une identité méditerranéenne, ouverte, européenne. Et ce sont ces trois identités, catalane, espagnole, européenne, que je veux évidemment préserver, parce que je pense que le séparatisme, l'indépendantisme conduirait la ville, et on en ressent déjà d'ailleurs les effets, à un désastre économique, social et politique. Et donc oui, je veux sauver Barcelone de cette dérive indépendantiste qui ferait que si Barcelone tombait dans les mains d'une alliance entre la maire actuelle, c'est-à-dire le populisme de gauche et le séparatisme, la ville connaîtrait un effondrement économique et social tout à fait considérable. Donc oui, je me pose en rempart, je veux sauver Barcelone, je veux récupérer cette ville et ses valeurs pour lui redonner toute sa puissance économique et culturelle. Elle a tous les atouts pour cela, pour regarder l'avenir avec optimisme.
Alors pour l'instant, dans les sondages, vous êtes crédité de 15% des intentions de vote, au coude à coude avec la maire sortante issue de la gauche. Si c'est nécessaire, si c'est pour faire barrage aux indépendantistes, est-ce que vous pourriez soutenir cette sortante afin qu'elle devienne maire ?
Non mais d'abord, de grâce, tous ces sondages sont faux, et même les chiffres que vous donnez ne correspondent à aucune réalité. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, ce sont les résultats.
Qu'est-ce qui veut dire qu'ils sont faux?
Parce que la plupart des sondages nous donnent à 20, 21, 22%. Donc c'est déjà cette réalité. Mais ça n'est pas le sujet. On ne va pas avoir une discussion sur des sondages. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est la campagne. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le scrutin est très ouvert. Et que c'est difficile, bien évidemment, parce que il y a deux blocs. Il y a un bloc indépendantiste et un bloc anti-indépendantiste. Mais moi, j'ai déjà dit les choses très clairement. Il n'y aura aucune alliance avec ce que j'appelle le populisme de gauche et avec la maire sortante. Aujourd'hui, elle est clairement du côté des indépendantistes, des séparatistes. Elle l'a d'ailleurs dit qu'elle souhaitait une alliance avec l'un des partis indépendantistes. Et il y aura un bloc, une tentative de bloc pour m'empêcher d'être maire de Barcelone de la part des indépendantistes et de la maire sortante. Donc moi, je veux faire le meilleur score possible, être le premier pour bâtir une alliance avec les constitutionnalistes, c'est-à-dire les socialistes et le Parti populaire, le centre-droit, s'ils rentrent au conseil municipal. C'est ça qu'il faut pour précisément sauver Barcelone. Vous savez, il y a deux débats ici. Le modèle de ville, entre la maire sortante et moi principalement, sur la gestion de la ville en matière de sécurité, de tourisme, de culture, d'habitat, d'économie, comment on bâtit vraiment une ville qui retrouve le goût de l'innovation et de l'économie. Et puis de l'autre côté, il y a le destin de la ville, son futur, dans l'Espagne ou pas. C'est ce débat qui m'oppose bien sûr et à la maire et aux indépendantistes. Et c'est ce débat, c'est un débat très sérieux, parce que les conséquences de l'élection de Barcelone seront très importantes, énormes même, pour la ville elle-même, bien sûr, pour le reste de la Catalogne, pour le reste de l'Espagne et pour l'Europe. On ne parle pas d'un village ici, on parle d'une grande ville connue par tous, qui est une marque internationale et que, notamment, les Français connaissent particulièrement bien.
Alors, on vous a reproché, finalement, d'avoir manifesté, il y a 15 jours, contre le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, que vous estimiez avoir fait trop de concessions, peut-être, aux indépendantistes catalans, aux côtés du parti d'extrême droite, qui fait beaucoup parler de lui, bien sûr, Vox, en Espagne. Qu'est-ce que vous répondez justement sur ce parti et sur votre position ?
D'abord qu'il ne faut pas dire des bêtises. Moi j'ai manifesté, d'abord c'était un rassemblement pour soutenir la Constitution. Parce que la Constitution espagnole, celle de 1978, qui est le fruit d'une transition particulièrement réussie après la mort de Franco, qui est le fruit d'un consensus inouï, qui est une des constitutions les plus progressistes ou les plus démocratiques au monde qui existe. Cette constitution, il faut la défendre, parce que elle est le contrat qui lie tous les Espagnols. Et j'étais aux côtés de qui dans cette manifestation? Des dirigeants, bien sûr, du Parti Ciudadanos, qui est un parti de centre-gauche, centre-droit, qui sont des libéraux, des progressistes, des Européens. J'étais aux côtés de Mario Vargas Llosa, un prix Nobel de littérature, qui n'est pas connu pour être un extrémiste de droite, qui est un homme qui se bat pour la liberté et pour la démocratie. J'étais avec des intellectuels, avec des militants de gauche aussi, qui étaient présents à l'occasion cette manifestation. Et puis, tout le monde sait par ailleurs, mes positions particulièrement claires, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi en Espagne, sur mon refus le plus absolu, le plus total, à toute alliance, à tout compromis, avec l'extrême droite, l'extrême gauche, avec ceux qui veulent séparer la Catalogne du reste de l'Espagne, ou avec l'extrême droite.
Manuel Valls, justement, on aurait aimé connaître votre position. Le Premier ministre espagnol a donc convoqué des élections anticipées le 28 avril. À l'issue de ce scrutin, s'il ne trouve pas de majorité pour gouverner, on pourrait très bien imaginer qu'une coalition des conservateurs, de Ciudadanos, et pourquoi pas aussi avec Vox, va voir le jour. C'est ce qui s'est passé en Andalousie. Est-ce que c'est une position qui est soutenable d'après vous?
Il faut rappeler à ceux qui nous regardent qu'ici, c'est un scrutin de liste à la proportionnelle intégrale. Il n'y a qu'un seul tour, avec un paysage politique qui est extrêmement fracturé. Et il faut trouver des coalitions. En Andalousie, c'est une région, il y a un gouvernement Parti Populaire Ciudadanos. Il y a, l'extrême droite n'est pas dans ce gouvernement. Mais, et je réponds à votre question, à l'issue des élections législatives, probablement, je ne suis pas devin et on verra bien, mais ce paysage sera très fracturé avec l'entrée en force de l'extrême droite, avec aucun parti qui peut avoir la majorité, même avec la difficulté de constituer des coalitions. Moi, je cesse de le répéter ici. L'Espagne, qui est un grand pays, ne peut pas être dans les mains ou des indépendantistes catalans ou de l'extrême droite espagnole. Donc la seule solution possible pour faire face aux grands défis que l'Espagne connaît, comme dans d'autres pays, l'Europe, les réformes économiques et sociales, l'immigration et bien sûr la question de l'indépendantisme catalan, la seule solution possible, c'est un accord entre les trois partis constitutionnalistes, c'est-à-dire les socialistes, le Parti populaire et Ciudadanos. C'est la seule voie possible. Toute autre voie est une voie dangereuse qui en plus oppose deux blocs en Espagne et ça rappelle les pires souvenirs. Donc moi je plaide pour cette voie qui est la voie raisonnable, la voie de l'intérêt général et du sens de l'État.
Il y a un autre homme qui serait assez d'accord avec vous sur cette voie du centre, Manuel Valls. Il s'agit en l'occurrence de la tête de liste des socialistes au niveau européen, le néerlandais Frans Timmermans, l'actuel numéro 2 de la Commission européenne. Il était cette semaine l'invité de la Fondation Jean Jaurès à Paris, fondation que vous connaissez certainement bien. Il a précisé finalement comment il cherchait à répondre à cette menace avec une social-démocratie qu'il envisageait comme cela, on l'écoute.
Il y a quand même cette idée que peut-être des nationalismes, des nationalismes même virulents, pourraient apporter des solutions aux problèmes de la société. Moi, je n'y crois pas. Je crois qu'on a besoin de l'échelle européenne pour vraiment trouver des solutions pour les problèmes de nos concitoyens. Et la dérive nationaliste n'amène rien du tout, sauf confrontation, sauf exclusion. Les socialistes démocrates ont toujours cherché une majorité. La majorité des gens se trouve dans le centre de la société, pas sur les côtés. Donc on a toujours essayé de trouver, de rassembler ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont rien pour trouver une solution pour la société entière. Et pour faire cela, il faut pas aller vers la gauche extrême. Ça nous aide pas du tout. Il faut rester au centre. C'est là l'endroit où la social-démocratie a toujours pu vraiment changer la société. Nous sommes un mouvement non pas révolutionnaire, nous sommes un mouvement réformiste.
Alors Manuel Valls, je vois que vous étiez plutôt d'accord avec Frans Timmermans sur le diagnostic, mais en attendant, en jouant au centre, la social-démocratie, elle est en net recul en Europe. Est-ce que c'est une bonne stratégie vraiment ?
Non, je crois que c'est la seule stratégie possible. Frans Timmermans, que je connais bien, qui est un ami, est venu d'ailleurs ici en Catalogne fustiger l'indépendantisme. Parce que, un mot seulement, l'indépendantisme ici c'est le nationalisme, avec des relents racistes. C'est pas un mouvement indépendantiste, progressiste, de gauche, apathique. Non, non. C'est un mouvement suprémaciste. C'est un mouvement d'exclusion, qui traite d'ailleurs les Espagnols comme s'ils étaient des bêtes. Ce sont les mots mêmes du président actuel de la Généralité. Donc, la seule voie possible, c'est la voie de la conciliation entre le centre-gauche et le centre-droit. Donc, la seule voie possible, parce que c'est le grand débat qui nous oppose en Europe, les libéraux, ceux qui défendent la démocratie, le progrès et les valeurs de l'Union européenne face aux populistes de gauche ou de droite, c'est l'accord, c'est le rassemblement, c'est l'union de tous ceux qui partagent ces valeurs européennes. Et c'est vrai au niveau de l'Union européenne, et c'est vrai bien sûr ici en Espagne.
Alors Manuel Valls, en France, le mouvement des Gilets jaunes en est à son acte 15, hein, encore un samedi de manifestation. Est-ce que vous trouvez que le président Macron a bien su gérer cette crise ? Est-ce qu'il aurait fallu peut-être interdire les manifestations comme vous l'aviez fait en 2016 contre la loi El Khomri ?
D'abord, il se trouve que j'étais en France il y a quelques jours, donc on m'invite à commenter ce qui se passe en France, mais vous avez bien compris que je suis pas un commentateur et que je suis aujourd'hui candidat à Barcelone. Mais une précision, j'ai dit que c'était difficile d'interdire une manifestation. De toute façon, vous n'empêcherez jamais quelqu'un de sortir dans la rue. Mais j'ai dit qu'à partir du moment où il y a dans des manifestations des risques, parce que c'est ce qui s'est passé, de propos, d'actes racistes, antisémites, violents, le pouvoir politique doit se poser la question de l'interdiction. D'ailleurs, en 2014 ou en 2015, à partir du moment où il y avait eu des manifestations où l'on criait « mort aux Juifs » dans les rues de Paris, avec Bernard Cazeneuve, nous avions pris la décision d'interdire ces manifestations. Donc il y a déjà eu des précédents. S'il y a ces risques-là de mots qui ne sont pas des opinions, qui sont des délits, ce qui s'est passé avec Alain Finkielkraut en est une démonstration des mots et des violences, il peut y avoir en effet la possibilité, le choix, la décision d'interdire ces manifestations, même si pour combattre l'antisémitisme et la violence, il y a évidemment d'autres moyens aussi, mais ce moyen-là peut être utilisé.
Alors, toute dernière question. Le djihadiste français Fabien Klein a été tué par un drone américain en Syrie. L'administration Trump demande aux Européens de reprendre ces combattants étrangers, ce qui pose un certain nombre de questions, ce qui fait polémique. Est-ce qu'il faut qu'ils reviennent ?
Ah, ce sont des sujets bien difficiles. D'abord parce que là où ils sont, en Syrie notamment, il n'y a pas d'administration. C'est pas comme ceux qui ont été... qui sont prisonniers, par exemple, en Irak. Ensuite, je peux comprendre notamment que les familles des victimes ou les victimes du terrorisme souhaitent le retour d'un certain nombre de djihadistes et de terroristes parce qu'on a besoin d'en savoir plus, parce qu'il faut des procès, et c'est très important, évidemment, pour la vérité et pour ces familles. De l'autre côté, on mène une guerre au terrorisme, c'est ce qui se passe encore dans des poches où ces groupes de djihadistes de l'État islamique résistent. Mais dans les conditions qui ont été rappelées par les responsables français, on peut considérer, oui, qu'il faut que ces djihadistes reviennent, mais avec toutes les précautions nécessaires, parce que Fabien Klein avait déjà été emprisonné. Il est reparti en Syrie, ou il est parti en Syrie. Il a sans doute été l'un des commanditaires des attentats du Bataclan. Donc l'opinion française, et à juste titre, inquiète du retour de ces djihadistes. Mais en tout cas, dans les conditions telles qu'elles sont prévues, je pense que la logique, c'est qu'ils puissent revenir, mais dans des conditions bien précises d'enfermement et de surveillance. Parce que là, nous le savons, il y a incontestablement des risques.
Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Manuel Valls, sur France 24 et RFI.
Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou sur France 24.